En sol majeur vous propose cette rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Une tête d'Écossais, un prénom arabe et peut-être un accent belge. Je vous présente Sharif Andoura, comédien et acteur de sa propre vie, comme nous tous, vous me direz. Ça, c'est pas sûr. Né au pays des frites, d'une mère belge et d'un père syrien, en voilà un qui ne pouvait devenir que le Omar Sharif Andoura de la famille, tout en aimant Rimbaud, Nietzsche, Molière, mais aussi Farid El Atrache, Mahmoud Darwish et Oum Kulthoum. Il se balade autant sur les écrans que sur les plateaux de théâtre. Alors qu'il tourne et joue avec les plus grands, je citerait Stéphane Brunschweig, qu'il était au moment de cet entretien en tournée avec « Je suis un pays » de Vincent McCain. Le voilà à l'affiche en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris dans « Un ennemi du peuple » d'Ibsen, dans une mise en scène de Jean-François Civadier. D'où cette rediffusion en sol majeur, avec ce regard occidental intimement tourné vers son Orient. Mselle Kher, Sharif Andoura. D'accord. Quel prénom vous avez, Sharif ? D'ailleurs, ça se prononce comment ?
Alors, ça dépend si vous êtes dans le Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Si en Afrique du Nord, ils auraient tendance à dire Sharif, qu'on traduira par shérif, ce qui m'a valu beaucoup de blagues enfant. Et en Syrie, comme ils ont tendance à allonger les voyelles, c'est plutôt Sharif, donc chat.
Sharif parce qu'Omar Sharif ou...
Alors au début, mon père voulait m'appeler Mustapha et ma mère n'était pas fan, pour le dire pudiquement, du prénom. Et donc après, je pense qu'elle aimait beaucoup Omar Sharif. C'était les années 70 et du coup, ils sont tombés d'accord sur ce prénom-là.
Omar Sharif, votre sort est scellé. Voilà. Je vais vous emmener sur le lieu du crime. Suivez-moi.
Comme nous n'avons pas d'enfants, hein, eh bien, je vous propose de l'adopter. Vous feriez ça, mon bounard?
Ben oui, hein. On n'en parlait, c'est sur la paveille, comme ça, hein.
Tiens, et j'ai une idée. Comme il est né dans la rue, hein, comme les petites gens, hein, eh ben on l'appellera Chanchi.
C'est assez bizarre ce qui se passe là pour En sol majeur sur RFI. On était sur les lieux du crime, à savoir la mémoire sonore de votre enfance. Sharif Andoura, qu'est-ce qu'on a au magasin alors ?
La mémoire des deux côtés. Là, on a la mémoire de la voiture de mon père qui écoutait Oum Kulthoum en boucle. Avec les marches en forêt que je faisais beaucoup quand j'étais enfant. Et à la fois avec mes parents et puis seul. Puis Liège est une ville dans laquelle j'ai grandi, qui est vraiment rythmée par l'automne.
Le théâtre du Guignol.
Et puis après, il y a le théâtre de marionnettes liégeoises avec le personnage liégeois par excellence qui s'appelle Tchantché, qui est François en fait en wallon, qui est une espèce de personnage un peu canaille du folklore liégeois. Il était pas mal votre extrait.
Je vous remercie.
P comme pays premier.
Et bienvenue, Sharif, dans notre abécédaire en sol majeur. Donc, pour dire que vous êtes né en 75 à Liège, donc en Belgique, et vous avez grandi avec des parents qui se sont séparés quand vous étiez môme à 5 ans. C'était qui vos parents ? C'est qui vos parents ?
Alors, ma maman s'appelle Florentine Maucourant, qui est un nom français d'ailleurs. Et mon père s'appelle... Alors, c'est drôle parce que son prénom arabe, c'est Khairi, Andoura. Donc, lui, il est venu de Syrie dans les années 70.
Pourquoi ?
Parce qu'il habitait dans un village assez pauvre, je pense. Et ils étaient nombreux, ils étaient 14, enfant. Et puis lui, je pense qu'il avait des rêves de médecine, peut-être aussi des rêves d'Occident. Il y avait quand même un peu l'idée de conquête de l'Ouest, quoi, comme les cow-boys. Mmh. Et donc il est arrivé d'abord en France, d'ailleurs. Puis il a rencontré un Libanais dans un bateau qui lui a conseillé d'aller à Liège. Et puis il s'est retrouvé à Liège et il a commencé des études de médecine qu'il n'a pas poursuivi longtemps, par paresse. Et après, il a ouvert un restaurant de cuisine syrienne au départ. Mais en Belgique, dans les années 70, les gens préféraient le couscous. Et donc, il s'est retrouvé à faire du couscous. Mais c'est comme si, je ne sais pas moi, un Allemand faisait des pizzas. Ou... Et donc, il a continué à faire ce restaurant de couscous et il se faisait appeler Alibaba.
Ah oui.
C'était le restaurant Alibaba.
Il avait tout compris déjà.
Voilà, c'était Alibaba.
Alors, il a volé votre mère sur un chemin de campagne.
Et voilà, oui, oui, c'était dans les soirées libanaises de la faculté de médecine, où ma mère travaillait à la faculté de droit. Elle s'est retrouvée dans les soirées libanaises, parce qu'elle était fan de Elle de l'Orient. Je pense qu'il y en avait un qui avait envie d'aller voir l'Occident et l'autre l'Orient.
Et ça se poursuit comment? Parce qu'ils ont quand même grandi tous les deux aux antipodes culturellement. Oui. Sur quelles valeurs ils se sont retrouvés?
Mais je pense que dans les années 70, le contraste entre la Syrie et la Belgique était vraiment très très fort. Enfin, la Syrie de la famille de mon père dans les années 70 correspondait, je vais dire, en termes de mentalité, de mode de vie et tout ça, à l'Europe du début du siècle. Donc il y avait vraiment un grand grand contraste. Après, je pense qu'il y avait une grande curiosité des deux au départ.
En tout cas, il y avait un amour et une curiosité commune pour le Moyen-Orient. Ils se sont retrouvés même en Irak ensemble.
Ils sont partis. Alors moi, je suis allé en Irak, du coup. Je suis allé en Irak. J'étais toujours dans le ventre de ma mère. Mais ils sont partis en Irak en coccinelle. Il faisait à peu près 50 degrés à Bagdad cet été-là.
Sans clim.
Et donc, sans clim. Et ils étaient obligés de mettre des serviettes de bain pour ne pas que le tableau de bord fonde. Et toutes les cassettes, d'ailleurs, ouais. de Farid El Atrache avaient fondu sur la banquette... à l'arrière.
Alors Liège, c'est une ville francophone de Belgique, mais dans la famille, on a un peu les deux côtés, wallon et flamand.
Oui, parce que mon grand-père donc était wallon, lui de Charleroi, et puis ma grand-mère était flamande de London, qui est une ville à côté de Bruxelles, entre Liège et Bruxelles, du côté flamand. Et ma grand-mère était vraiment une flamande.
En tout cas, côté maternel comme paternel, on peut dire que l'histoire, avec un grand H, est passée par là.
Oui, parce que mon grand-père, lui, a vécu la guerre. À un moment donné, il a été prisonnier. Il n'a pas été déporté, mais il a été prisonnier du côté francophone, quoi, dans un couvent qui était tenu par les Allemands. Et du coup, je me suis retrouvé, moi, enfant, avec des résidus de haine. Enfin, de haine, non, le terme est un peu trop fort, mais de ressentiment à l'égard de gens avec qui il y avait eu des guerres. C'est-à-dire, mon grand-père avait connu la guerre et donc avait un ressentiment profond pour les Allemands qu'il appelait encore les Boches. Et puis, j'avais mon père qui, lui, en arrivant dans les années 70, sortait des guerres avec Israël et qui interdisait à ma mère d'acheter des oranges Jaffa.
Sans parler du conflit wallon-flamand.
Et en plus, il y avait le conflit. Alors ça, c'était... Quand j'étais enfant, c'était encore, comme on dit aujourd'hui, la Belgique à papa. C'est-à-dire la Belgique un peu unitaire, qui faisait la fête autour de son équipe de football. Et puis, à partir de mon adolescence, il y a eu de plus en plus de volonté d'indépendance du côté flamand. Et puis, s'en est suivi les réformes de l'État, et puis les difficultés, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a quand même battu tous les records d'un pays sans gouvernement.
Absolument.
On avait même battu l'Irak, d'ailleurs. C'est toujours beaucoup d'autodérision en Belgique. Mais
vous, Charif Honduras, est-ce qu'il vous a fallu choisir un camp, autant dans ce conflit wallon-flamand que dans ce conflit israélo-palestinien?
Heureusement, non. Heureusement, non. Il n'y a jamais eu familialement de conflit, même à table ou à Noël, terre de conflit. Il n'y a jamais eu de conflit autour de la question belge. Et puis après, au niveau de mon père, non, parce que mon père, c'est assez étrange, parce que plus il vieillit, plus il s'adoucit. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lui, il était vraiment pour une paix globale. Et s'il avait du ressentiment, c'était plutôt par rapport aux Américains et au manque d'intervention notamment évidemment sur la Syrie en 2013.
Mais ça, c'est votre père, c'est pas vous.
Ça, c'est mon père, oui, oui. Et puis moi, après, moi, j'étais pour la paix des familles. Et
et du coup, vous faites des blagues juives comme ça, tout seul, dans votre coin, en
voilà.
fait. Je sais pas si c'est des blagues très juives ou très flamandes.
C'est ça.
En tout cas, musicalement, ouais. vous faites partie du camp pro-Arnaud.
Oui.
Pour en sol majeur. Arnaud, c'est un peu le roi de la reprise décalée. Mmh. On va l'écouter, par exemple, dans ce morceau « Come à Ostende » qui a été créé par Léo Ferré.
Magnifique.
Je ne sais pas si ça dit quelque chose d'ailleurs à nos jeunes, je ne suis pas sûre.
Ah ouais, je ne sais pas.
Pourquoi vous aimez cette version d'Arnaud, vous ?
J'adore Léo Ferré, parce que j'ai un côté très soleil et un côté assez mélancolique, et Ferré me tire des larmes assez facilement. Et après, Arnaud, c'est vraiment Ostende, quoi. C'est une ville que j'adore, qui est une ville pas belle, mais tellement belle du coup.
On voyait les choses, la mer, qui fonçait la tête la première, et qui fracassait leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans, et moi qui suis vieux comme l'hiver. Je me suis baladé dans le printemps, et ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert. Parti vers ma destinée, me voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait.
La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver, au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amande. Ça, c'est du Léo Ferré, craché à l'instant par Arnaud sur RFI pour en sol majeur et dans les oreilles de Sharif Ondoua. Un comédien qui joue tout. J'ai regardé, hein, vous jouez du billard, bon, du Racine, d'accord, du James Joyce, Finnegan's Wake, incroyable, du Frantz Fanon, on y reviendra. Et puis côté actu, du Vincent McKain avec Je suis un pays, pièce qui a fait polémique, qui a fait événement aussi, je ne l'ai pas vu, hein, mais je sais que c'est une réflexion sur, on va dire, comment l'humain est un peu coincé aujourd'hui dans ce qu'on va appeler un écosystème de pouvoir multiple. Avec par exemple la figure du bon tyran qui nous gouverne, du petit personnel politique qui est là pour entretenir une sorte de discours hystérique sur la crise, et puis des médias qui divertissent plus qu'ils n'informent. Alors ça fait très intello hein, quand je dis ça comme ça, mais je crois savoir que sur scène c'est un peu le spectacle de la désorganisation qui est donné à voir. Vous tenez quel rôle vous, Sharif Ondoua ?
Monsieur Ondoua.
C'est qui ?
Monsieur Ondoua qui est donc un des conseillers du dirigeant du pays. Et qui lui-même après gagne un jeu de télé-réalité Et du coup, suite à ce jeu qu'il a gagné, il se déclare candidat aux prochaines élections présidentielles.
Vous nous offrez un bout de monologue ?
Oui, ça, sa candidature.
Je suis un pays pour un sol majeur.
Bonsoir, je suis féru d'administration, de politique et d'art audiovisuel. Et quand j'ai entendu l'appel de monsieur le conseiller Igor au poste de président de ce pays, je me suis dit que j'avais toutes les qualités requises. Il est temps d'agir. Je suis sûr que des choses se trament. On ne nous dit pas tout, on nous ment. Ce n'est pas clair. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un intellect supérieur à la moyenne. Et comme disait monsieur Trump, mon mentor, Dieu et son âme, vous savez, quand je pense à l'entreprise qui lui a planté ses cheveux cancérigènes dans la tête, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Parce que vous savez, je disais toujours à monsieur Trump, Donald, n'aie pas honte de montrer ton crâne dégarni, car c'est derrière ce crâne dégarni que ton cerveau puissant se loge. Les gens m'aiment beaucoup, je suis très populaire, tout le monde m'aime. Je connais plus de 250 mots, je connais les meilleurs mots. Et si je suis élu, le pays va tellement exulter que vous en serez fatigué d'exulter. Et maintenant, j'ai juste une dernière question, si vous me permettez, pour Monsieur Fluck, ici présent, et pour nos électeurs. Si je peux me permettre, Monsieur Fluck, alors que 52% de la population de notre pays dort dehors, à l'extérieur, sans maison, et que vous n'êtes même pas capable de satisfaire votre femme, comment pouvez-vous imaginer satisfaire le pays ?
Chère Fandoura, donc avec un extra en sol majeur de « Je suis un pays », d'où sort cet accent ?
C'est l'accent de mon père, en fait. Quand on a commencé les répétitions, Vincent McCain donc, nous a demandé un peu à tous les acteurs si on avait des accents comme ça, parce que ça l'amusait.
Okay, moi, mais alors pourquoi ? Parce que là, vous campez un candidat à je ne sais quelle élection avec un discours un peu complotiste. Hein ?
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, il y a beaucoup d'extraits de ce discours qui ont été repris de vraies phrases qu'a pu dire Donald Trump. Par exemple, Donald Trump a vraiment posé la question à Hillary Clinton de savoir comment elle pouvait imaginer satisfaire le pays alors qu'elle n'était pas capable de satisfaire son mari. Mmh. Et on a repris pas mal de vraies phrases de Trump comme de vrais discours de Sarkozy. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait quand même que les gens sachent que c'était des vrais extraits de...
Mais je repose quand même ma question. Quelle fonction il a cet accent syrien ?
Ça n'a pas de rapport de sens. Je ne dis pas, ah tiens, c'est la parole de quelqu'un qui viendrait de cette région du monde ou quelque chose comme ça. Parce que dans cette pièce, de toute manière, tous les personnages sont un peu dingues. Donc,
On va garder cet accent, on va se le garder comme ça, comme une espèce de porte-clé dans l'émission en sol majeur, on va voir ce que ça va devenir. Mais comment ce petit vent oriental a pris sur vous, Chérie Fandoura ? Ça, c'est la question. Mmh. Et la réponse passe peut-être par l'histoire en marche.
C'est là, juste en face de la préfecture, sur la voie publique, que Mohamed, mon frère, a été frappé et humilié. Une femme policière l'a giflé et trois autres agents lui ont donné des coups. Il a crié, hurlé. Ensuite, il a pris un bidon d'essence et il criait « Ouvrez la porte !» Ils l'ont tout simplement ignoré. Le briquet s'est allumé. Mohamed, mon frère, est mort de dépit, victime d'injustice.
Le suicide du jeune homme, un vendeur ambulant de 26 ans, a enflammé le monde arabe. Le régime de Ben Ali tombe. Place Tahrir, les manifestants tiennent bon. Le 11 février 2011, sous la pression des généraux, Moubarak démissionne. Février 2011, les premières manifestations éclatent dans l'est du pays. Les Libyens réclament le départ du colonel Kadhafi. Celui-ci jure qu'il ne quittera jamais le pouvoir. 18 mars 2011, plusieurs centaines de milliers de personnes réclament le départ de Saleh. Les forces de l'ordre tirent sur les manifestants. C'est un bain de sang. Mars 2011, le président Assad réprime les manifestations dans le sang. Le bilan est lourd, plusieurs milliers de morts.
V comme... Vent de l'histoire.
Avec « Dégage » sans accent, là, pour le coup, le slogan, ce slogan de ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui donc ont enflammé la Tunisie dès décembre 2010 jusqu'à la Syrie en 2011. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là, Sharif Ondoura ?
Un élan, un espoir très grand et en même temps une peur, une appréhension, parce que je me souviens des années 93-94, de Camp David, des premiers accords israélo-palestiniens et de la vague d'espoir qu'il y a eu.
Que vous avez vécu
Que j'ai vécu très très fortement. Oui. Ah oui, oui, vraiment, j'étais bouleversé, j'étais fasciné. Je reviens à la paix des familles dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis les choses se sont dégradées. Et donc quand il y a eu les printemps arabes, j'ai reconnecté avec des sensations comme ça.
Parce qu'un père, quand même, avec lequel vous ne vivez pas, mais qui vous a transmis sans doute son regard sur cette histoire, lui, il est dans, classiquement et traditionnellement dans le panarabisme, donc c'est quelque chose qu'il vous le transmet.
Oui, parce que lui, en tant que Syrien, enfin, je ne vais pas dire en tant que Syrien, parce que tous les Syriens n'étaient pas forcément comme ça, mais je veux dire, lui, il a grandi dans une fascination de Nasser, de la République arabe unie, d'un monde arabe qui serait différent, même s'il a toujours eu beaucoup de méfiance sur la géopolitique des pays arabes entre eux et des dirigeants surtout entre eux. Et là, il y avait cette grande aspiration, enfin, cette idée que, tiens, un autre système allait être possible dans tous ces pays. Mais après, je reste persuadé que ça n'est pas terminé.
Mais vous le pensez à partir de d'où, en fait ? Parce que si on revient sur la Syrie, qui est quand même un point particulier pour vous... Sharif Ondoura, je rappelle que ça va devenir finalement le gros gâteau de l'histoire, ça va devenir l'enjeu politique de toute la région, le pays est pris en tenaille entre les forces de Bachar, l'armée syrienne, les islamistes d'Al-Qaïda, puis l'État islamique, et puis enfin l'Iran qui soutient financièrement Bachar. Donc comment est-ce qu'on vit cette tragédie quand on vit en Occident, mais qu'on a de la famille intramuros à Damas ?
Vous parlez de gâteau de l'histoire, c'est un peu une tarte à la crème de dire que c'est complètement désespérant, d'une part, et après, d'autre part, pour répondre à votre question, je pense que c'est compliqué en tant qu'enfant de Syrien, avec de la famille syrienne, de se prononcer, parce que les prises de position ici peuvent avoir des conséquences à tous les niveaux, donc c'est très délicat. Moi, je sais que, par exemple, les réseaux sociaux, pour aller vite, où tout le monde ici a tendance à dire que ça n'a aucune utilité, enfin voilà, la vanité des réseaux sociaux, moi, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des nouvelles, des images, des extraits de vieilles chansons, de frères de mon père qui chantaient dans la mosquée des Omeyyades, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup touché d'avoir des images de la maison de famille qui a été détruite. Enfin voilà, mais en même temps, on ne peut pas non plus commencer à donner son avis sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué.
Avoir une parole publique en tant qu'enfant de Syrien, puisque c'est comme ça que vous vous définissez, c'est délicat.
Oui, parce que moi, j'ai cette particularité que mon père est syrien. Je pense que pour les Syriens, je suis syrien. Mais comme il ne m'a pas déclaré en Syrie, je n'existe pas administrativement en Syrie.
Qu'est-ce qui se passe si vous débarquez en Syrie, vous pensez ?
Bon, là, aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais on a failli y aller avec mon frère en 2011, parce que je n'y suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Syrie. Et donc, on a failli y aller en 2011, et donc j'avais appelé l'ambassade pour poser la question. Et la personne de l'ambassade m'a dit, avec beaucoup de pudeur diplomatique, m'a dit « Ah, monsieur, si votre papa ne vous a pas déclaré en Syrie, là, il y a un petit problème. Vous pourrez rentrer sans problème, mais pour ressortir, il y aura probablement un petit problème. »
Un petit garçon né dans la communauté musulmane, alors évidemment ça peut varier, mais quand même. Le kit de base, vous savez ce que c'est, hein, c'est main de Fatma, circoncision et tomina, en tout cas au Maghreb. Hein, vous savez, c'est cette semoule grillée avec du miel et du beurre fondu. on fait pour les naissances. Est-ce que ça a été votre cas à vous, Sharif Ondoura?
Moi, j'ai eu droit à, je pense, des versets du Coran chuchotés à l'oreille dans le berceau. Et je n'avais pas la main, j'avais un tout petit Coran dans un livre en argent que j'avais en pendentif. Et après, ce qui est amusant, c'est que comme ma mère, elle était catholique romaine, et mon père donc musulman, ils m'ont laissé le choix, ils m'ont dit, bon, on ne va pas imposer, il choisira lui-même. Alors après, comme j'ai grandi dans un pays qui est assez catholique, qui est la Belgique, j'ai eu une espèce de crise mystique à 12 ans. Donc je me suis fait baptiser et là je suis tombé, vous parliez des prénoms, je suis tombé sur un prêtre qui avait fait ses classes dans le Congo belge et qui m'a dit, c'est très bien, tu vas faire partie de la grande famille des croyants, mais tu dois changer de prénom parce que ton prénom ne fait pas partie de la grande famille catholique. Et donc j'ai choisi Thomas, qui est celui qui a quand même un doute. Voilà. Mais bon, ça j'étais inconscient.
Mais dans votre crise mystique, vous n'avez pas hésité entre la religion catholique et l'islam?
Non, mais ça je pense que c'est vraiment le fruit de l'éducation et du milieu dans lequel j'ai grandi. Et qu'à 11 ans, je pense qu'il y a une volonté d'intégration. Et que la religion musulmane n'avait pas le même statut. C'est compliqué de dire ça comme ça, mais c'était très discret comme religion.
En tout cas, vous regardez cette région du monde, arabe, avec beaucoup d'attention. Vous avez apparemment envie d'y faire un bout de chemin, même artistique. La première occasion vous est offerte en 2012, en fait, avec le spectacle « Sous la peau ». C'est une création de Kamel Zekri, à partir des textes de Frantz Fanon. Alors, qui est Kamel Zekri, d'abord?
Un immense musicien, dans tous les sens du terme, parce qu'il a un talent fou, qui mesure 2,15 m, enfin j'exagère, mais un immense musicien que j'ai rencontré, qui lui est à cheval, si j'ose dire, aussi entre la France et l'Algérie, qui vient de Biskra, plutôt dans le sud, et qui a repris lui le diwan, qui était des musiques traditionnelles algériennes, un peu comme les musiques nawa de son grand-père. Et en même temps, il travaille la musique électronique et tout ça. Et donc, il m'a proposé de participer à son spectacle, qu'on a fait tous les deux, en fait, avec un metteur en scène qui s'appelle Thierry Bédard. Et on a eu la chance d'aller jouer ce spectacle en Algérie. Et donc, pour moi, c'était très troublant, parce que c'était la première fois où j'allais vraiment dans un pays... Comment est-ce que je vais dire? Je ne vais pas dire un pays arabe, hein, mon Dieu.
Oh là pourquoi là, vous ne pouvez pas dire que c'est un pays arabe?
Je ne sais pas. Parce que quand j'y suis allé, j'ai compris qu'il y avait quand même des querelles entre les Algériens, ce qu'ils disent être les Arabes, les Kabyles, tout ça. Donc je pense que c'est des identités compliquées.
Une histoire compliquée.
Ouais.
Alors, même si on est sur RFI, rappelez-nous quand même qui est Frantz Fanon.
Oui, ben Frantz Fanon, c'est, alors là de nouveau, c'est assez passionnant parce que c'est un médecin, psychiatre, qui est noir et qui est français.
Martiniquais,
puis qui est parti travailler dans un hôpital à Blida, là-bas en Algérie, comme psychiatre, et qui a découvert que les maladies dont souffraient les Algériens, qui étaient soi-disant des maladies feintes, des fausses maladies, parce que la médecine traditionnelle ne décelait ni d'ulcères à l'estomac, ni de problématiques je sais pas quoi, et donc ils avaient mal au ventre, ils disaient, bon, ce sont des menteurs, ils ont mal au ventre pour ne pas travailler, et lui s'est rendu compte que c'était des maladies psychiques profondes, liées à leur statut de colonisé, et donc il a commencé à écrire sur tout ça. Il a écrit le livre fameux « Les damnés de la terre » qui a été préfacé par Sartre. Et puis après, il a pris parti dans le conflit entre la France et l'Algérie, et donc il a été considéré comme traître à la France. Et il est mort algérien en Algérie.
Voilà, et c'est devenu finalement le chef de file des intellectuels tiers-mondistes.
C'est vrai.
Ou lorsque, avec donc ce spectacle « Sous la peau », la polyphonie de la pensée de Fanon rencontre une musique hallucinée. « Sous la peau », extrait.
La conscience morale implique une sorte de scission, une rupture de la conscience, avec une partie claire qui s'oppose à la partie sombre. Pour qu'il y ait morale, il faut que disparaisse de la conscience le noir, l'obscur, le nègre. Donc un nègre à tout instant combat son image. Voici en effet ce qui se passe. Comme je m'aperçois que le nègre est le symbole du péché, je me prends à haïr le nègre. Mais je constate que je suis un nègre. Pour échapper à ce conflit, deux solutions. Ou bien je demande aux autres de ne pas faire attention à ma peau, ou bien, au contraire, je veux qu'on s'en aperçoive. J'essaie alors de valoriser ce qui est mauvais puisque, irréflexivement, j'ai admis que le noir était la couleur du mal. Pour mettre fin à cette situation névrotique, où je suis obligé de choisir une solution malsaine, conflictuelle, nourrie de fantasmes, antagonistes, inhumaines, enfin, je n'ai qu'une solution. Survoler ce drame absurde que les autres ont monté autour de moi, écarter ces deux termes qui sont pareillement inacceptables, et à travers un particulier humain, tendre vers l'universel.
Sous la peau, les mots de Frantz Fanon, donc pour en sol majeur. En écoutant cet extrait, Charif Andoura, vous qui n'êtes pas noir, avec votre tête de roue tout bouclée, là, comment circulent ces mots de Fanon en vous ?
Ben, je pense que le titre que Kamel a choisi, Sous la peau, est très juste, en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas qu'une image poétique. Pour moi, c'est vraiment très concret. Parce qu'après, ce qui est assez drôle, c'est que, par exemple, sur ce spectacle, quand on est allé en Algérie le jouer, quand on est arrivé à Oran, tout à coup, moi, je suis plutôt pâle, comme vous dites, cheveux roux, bouclés. On me prend souvent pour un Américain ou un Anglais quand je sors de l'aéroport. Kamel, qui fait plus de 2 mètres, qui est noir. On a tous les deux des noms plutôt à consonance arabe. Donc les gens venaient nous voir et nous disaient « Excusez-moi, mais vous êtes qui, en fait ?»
Oui, mais vous faites quoi, en fait, moi, j'ai envie de vous dire. Pourquoi faire circuler du Frantz Fanon ?
Je pense qu'on on le connaît peu, en fait. Ou c'est toujours un peu les mêmes cercles qui ont lu Fanon.
Mais est-ce que ça rencontre chez vous des interrogations personnelles ? La démarche d'un Fanon avec les damnés de la Terre, etc.
Alors là, si vous me permettez un tout petit détour, j'ai pu revivre ça avec une troupe avec qui on est allé jouer en Chine cet été. Il y avait 2 acteurs qui étaient noirs. Et tout à coup, en Chine, dans la moindre gare, ils se faisaient filmer, prendre en photo, etc. Et là, j'ai vu la violence... Parce que ce n'était pas fait de manière violente, mais c'était fait avec une espèce de candeur très brutale, en fait. Et donc ça, je ne me reconnais pas, parce que je pense que je ne vis pas cette réalité-là. J'ai plutôt tendance à vivre l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais en Égypte ou au Liban, il faut que je me mette à parler arabe pour que les gens comprennent que j'ai des origines arabes, pour aller vite. Parce que sinon, j'ai la peau d'un occidental et je suis perçu comme totalement occidental.
Donc vous n'avez pas les mêmes interrogations qu'un Kamel Zekri qui est noir, qui lui a sans doute vécu dans sa chair le racisme, ni dans quelqu'un qui est lointainement en lien avec l'histoire de la colonisation.
Non, non. Après, ce que je trouve passionnant chez Fanon, c'est les liens qu'il fait. Entre l'Algérie, la France, l'Occident, le Sud, le Nord, les Noirs, les Blancs, et qu'il y a l'idée de survoler, comme le dit l'extrait. Et ça, je trouve ça toujours beau.
Alors ce Frantz Fanon, donc, qui est effectivement quasiment inconnu, d'ailleurs autant en France, sauf des intellectuels ou des universitaires, bien sûr, qu'en Algérie.
En Algérie, les gens le connaissent parce qu'il y a énormément de rues, de boulevards et d'avenues Frantz Fanon, mais les gens n'ont pas plus lu, non. Voilà. Non, pas du tout.
Donc Fanon s'est effectivement extrêmement impliqué pour l'indépendance lors de la guerre d'Algérie. Une petite preuve en forme de lettre à un Français publiée dans les années 60 et qui paraît dans votre spectacle intitulé « Sous la peau ».
Quand tu m'as dit ton désir de quitter l'Algérie, mon amitié, soudain, s'est faite silencieuse. Certes, les images, surgies, tenaces et décisives, étaient à l'entrée de ma mémoire. Je te regardais, et ta femme à côté. Tu te voyais déjà en France. De nouveaux visages autour de toi, très loin de ce pays où, depuis quelques jours, les choses décidément ne vont pas bien. Tu me l'as dit. L'atmosphère se gâte, il faut que je m'en aille. Ta décision, sans être irrévocable parce que tu l'avais exprimée, progressivement prenait forme. Ce pays, inexplicablement hérissé, les routes qui ne sont plus sûres, les champs de blé transformés en brasiers, les Arabes qui se font méchants, on raconte, on raconte.
etc. La plume de Fanon, donc, qui continue de nourrir son indignation dans cette lettre à un Français, et au moment, dans ce moment d'Algérie en pleine guerre d'indépendance, contre ce Français d'Algérie, inquiet, dit Fanon, de l'homme, mais singulièrement pas de l'arabe. Plus de 50 ans après l'indépendance algérienne, quel sens il peut avoir ce texte pour vous, acteur belgo-syrien, Sharif Ondoura ? On a compris que vous étiez insensible, mais on se dit que Fanon, il faut être, soit être noir, soit être anciennement colonisé, on va dire, pour être sensible à sa pensée.
Je pense qu'il donne de la profondeur de champ à ces événements-là, Fanon. C'est-à-dire, il met en relief des questions qui du coup font du sens et par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là et par rapport aux problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui. C'est assez troublant parce que quand on est allé le jouer en Algérie, il y avait une dame, je me souviens, à Tlemcen, à la frontière marocaine, qui est venue me voir en me disant « Monsieur, c'est très touchant les textes que vous nous avez dit et vous avez écrit ça quand, l'année dernière ou cette année ?» Et c'était mais bouleversant. Je pense que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout l'habitude d'aller voir des spectacles et tout ça. Et elle avait l'impression que c'était des textes qui venaient d'être écrits, qui lui étaient destinés à elle par rapport à ce qu'elle vivait aujourd'hui en Algérie, pour d'autres raisons évidemment, par rapport à d'autres gens, par rapport à d'autres contextes. Parce qu'il parle de la libération. Et ça reste sensible à n'importe qui.
Et ça vous intéresse comme travail en tant qu'acteur ?
Moi, je trouve ça passionnant quand, en tant qu'acteur, ma parole, enfin le jeu du personnage rencontre le jeu de l'acteur. Quand ce que j'ai à dire m'intéresse, me touche et rencontre des... Non pas d'un point de vue psychologique, d'acteur studio, etc. Bien que ça m'a toujours fasciné, mais parce que je me sens en prise avec le monde dans lequel je vis.
On est presque dans votre chambre, Sharif Ondoura. Oum Kalsoum, donc la voix familière et familiale hein, pour vous sur le gramophone de votre enfance.
Est-ce que je peux vous traduire juste ce qu'elle vient de chanter ?
Allons-y.
C'est « Et nous avons retrouvé nos esprits quand l'ivresse fut passée et nous nous sommes réveillés à si l'on pouvait ne pas se réveiller. »
C'est une amoureuse qui parle.
Et elle parle de l'ivresse, qui est quand même assez dingue. Elle parle de l'alcool dans cette chanson. Elle demande à son amant de lui servir à boire et servir à boire. Parce que, après, moi, j'ai retraduit toute cette chanson à l'Atlal, qui est une chanson sublime. Et donc, je posais la question à la personne avec qui je travaillais pour être sûr de. Parce qu'elle dit à un moment donné, Isqini washrab ala atlalihi. C'est-à-dire, serre-moi à boire et buvons, trinquons sur nos ruines, sur les ruines. Et donc, je dis, mais serre-moi à boire, c'est quel sens ? Et elle dit, Isqini, c'est serre-moi à boire de l'alcool. C'est pas serre-moi un thé, un jus de fruits, un Fanta orange.
Oui, enfin, je rappelle qu'il faut lire Rumi, voilà. Etc., qui a effectivement célébré autant Dieu que le vin.
Évidemment, mais là, c'est génial. Alors, une femme chante ça dans les années 60.
El Atlal, donc Les Ruines, c'est une chanson fleuve, hein, normalement, qui fait 48 minutes et notre méchante Laura Pinto l'a réduite à 30 secondes.
Oui, c'est une citation.
En même temps, effectivement, c'est un morceau qui est à la mode, très étrangement, je dirais, en tout cas en Occident. De mémoire, on a Nora Krief et Sappho qui se sont frottés à Oum Kalsoum.
Hein. Tout à fait.
Et c'est quand même sacrément gonflé de votre part, non, de travailler sur El Atlal. Vous en avez fait un spectacle, donc, Sharif Ondoura.
Oui, oui. Alors, après, ce qui était vraiment gonflé, c'était de toucher à Oum Kalsoum, parce que c'est quand même... on touche à la quatrième pyramide, comme disaient les Égyptiens. À l'Atlal, donc, c'est les ruines, et ça parle des ruines d'un amour en ruine. Et j'avais envie de tisser cette chanson sur les ruines, avec des textes de Darwish qui parlaient de ces ruines à lui, enfin, de celles qu'il avait traversées, c'est-à-dire une journée de bombardement de Beyrouth en 82, une mémoire pour l'oubli. Et puis aussi sur l'identité, parce que ça devenait une grossièreté. l'identité nationale et tout ça, ça devenait vraiment des choses assez brutales.
Vous voulez dire en France ?
En France, oui, oui.
Donc et votre réponse au débat sur l'identité nationale, c'était les ruines d'Umm Kulthum et la poésie de Mahmoud Darwish, palestinien.
Et notamment un de ses derniers textes qui s'appelle « Le lanceur de dés », où il commence en disant « Man ana liaqul lakum ma qul lakum » qui veut dire « Qui suis-je pour vous dire ce que je vous dis ?» Évidemment que c'est culotté de parler de tout ça alors que je n'ai jamais vraiment vécu dans le monde arabe. L'arabe, c'est pas mon père qui me l'a appris, c'est une langue que j'ai appris par moi-même. Je n'étais jamais allé en Syrie et tout ça. Mais c'était intime.
وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج وخفت كثيرا على إخوتي وأبي وخفت على الزمن من زجاج ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد لا وقت للغد لا وقت للغد
Air comme racine ou Rabelais.
Ça nous fait rire un peu en sol majeur de vous poser cette question à vous qui êtes comédien, Sharif Ondoura, sur fond de Mahmoud Darwish.
Ah là là.
Si vous êtes davantage Racine ou Rabelais ?
Je pense que je suis Rabelais pour cacher Racine. C'est-à-dire, je suis Rabelais parce que je pense qu'il faut vraiment profiter de la vie tant qu'elle est là et tant qu'elle est. Dès qu'elle peut être belle et joyeuse. Mais parce que derrière tout ça, il y a quand même une. Pyrrhus dit brûler de plus de feu que je n'en allumais. Et c'est vrai que derrière, je brûle, j'ai des moments de grande colère, de grand désespoir et de feu, comme il y a dans les personnages de Racine. Mais j'essaie de me tenir correctement à table, comme disait ma mère.
Heureusement que vous êtes comédien, par ailleurs. Justement, j'aimerais bien qu'on l'exploite, ce comédien. Et qu'on s'offre un petit bout de votre kaléidoscope linguistique, parce que je crois qu'on peut parler de ça. Sharif Ondoura, on
c'est
y va.
Vrai. وانتبحنا بعد مثال رحيق وافقنا ليت أنا لا نفيق يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير قال وإذا الفجر مدل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق أيها الثاهر تخفو تذكر العهد وتصحو Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen, een witte vlokken schuim uit in slaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beukt aan het zwart basalt, en over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij op het strand woest is al een woedstein, een natte westenwind gieren van venijn, dan vecht mijn land. Mijn vlakke land.
Sharif Ondoura pour en sol majeur, donc en arabe, en français et en flamand. Vous avez quel rapport alors finalement avec ces trois langues, je dirais en tant qu'homme et en tant que comédien?
Le néerlandais, c'est vraiment une. Là, ça fait 20 ans que je suis en France, que je n'ai plus pratiqué, donc c'est vraiment une. Ça fait partie de la mémoire.
Un spectacle en flamand, ce serait possible?
Ah, ça me plairait beaucoup. Et après l'arabe, c'est très étonnant parce que, comme je vous le disais, c'est une langue que j'ai apprise parce que mon père ne me l'a pas apprise.
Et pourquoi vous avez ressenti ce besoin de l'apprendre ?
Parce que j'avais l'impression que je ne me servais que d'un bras, que j'avais un autre bras dont je ne me servais jamais. Et après, je préparais ce voyage que je n'ai toujours pas pu faire en Syrie. Et je trouvais ça absurde de partir en Syrie et de parler en anglais avec des cousins ou avec des oncles ou des tantes, qui probablement en plus ne parleraient pas anglais. Et puis après, c'est une langue que je trouve très belle en fait. Très très belle.
C'est une langue étrangère pour vous ?
C'est déroutant parce que c'est pas du tout c'est une grammaire qui est très très différente. Et au début, c'est une autre manière de penser. Mais ça, c'est passionnant aussi parce que, comme disait Goethe, vous n'apprenez pas une langue, vous faites des tours, et à un moment donné, vous tombez dans la langue. Et une fois qu'on tombe dans cette langue, on comprend aussi une autre manière de penser.
Vous comprenez mieux votre père depuis que vous parlez l'arabe ?
Je pense, oui.
Est-ce que ça a une identité, un acteur ?
Je pense que l'identité, c'est le manteau d'Arlequin, quoi. C'est des morceaux qu'on assemble. Là, je suis avec vous d'une certaine manière, mais je vais être différent avec mes enfants, avec mon meilleur ami, avec ma mère ou avec mon banquier.
Le manteau d'Arlequin, c'est une belle image.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Chérif Andoura, une urgence théâtrale, le vous voir ou vous découvrir dans Un ennemi du peuple d'Ibsen, mis en scène par Jean-François Civadier. C'est à l'Odéon jusqu'au 15 juin, tout ça restant très parisien. Un duo Pavarotti et U2 autour de Miss Sarajevo, ça vous dit ? Pour refermer cet En sol majeur.
Oui. Avec plaisir. Is there a time for keeping the distance?
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Laura Pinto, Caroline Filliette, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain, on vous espère demain avec Chantal Aounou. À demain. Musique du